André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de retrouver dans Théâtralité une comédienne électrice qui va devenir une habituée de notre émission car elle vient nous rendre visite pour la troisième fois et nous parler de littérature. Elle est déjà venue la première fois en juin 2025 pour nous présenter Yasmina Kadra et son roman « Les hirondelles de Kaboul », puis en février nous parler de Raymond Queneau et son exercice de style. Bonjour Véronique Momy.
Bonjour André, c'est un plaisir de partager ensemble et avec nos auditeurs les plus beaux textes de la littérature et plus.
Oui, content de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes comédienne électrice et que vous animez sur la côte atlantique des événements culturels et littéraires. Aujourd'hui, vous venez nous parler de Diderot, Dickens et Delerme ou comment faire de la littérature une œuvre vivante. Alors, un lien entre trois auteurs, Denis Diderot, 1713-1784, Charles Dickens, 1812-1870, et Philippe Delerme, né en 1950. Trois époques bien différentes. Alors, dites-nous quel est le lien entre eux et quel en est le message ?
Alors, André, le message, c'est qu'en 1830, année de la première publication du paradoxe sur le comédien de Diderot, jusqu'à nos jours 2025, où Philippe Delerme nous livre dans son dernier ouvrage « Le suicide exalté de Charles Dickens », revient toujours la même discussion, la même réflexion, à savoir comment au théâtre, sur scène, un acteur doit livrer, faire vibrer les textes et personnages d'ouvrages littéraires.
Et alors par rapport à ça, quelle est la position de Diderot et qu'est-ce qu'il nous dit sur le jeu de l'acteur ?
Alors, le paradoxe sur le comédien de Diderot est un des plus importants ouvrages théoriques sur le jeu de l'acteur. Dans ce traité, drôle et brillant d'ailleurs, Diderot interroge le théâtre de son temps. Même s'il n'a pas construit sa renommée sur ce genre, beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle, Voltaire entre autres, ont souffert de cet écrasant prestige du théâtre de l'époque classique. La thèse de Diderot est ainsi un paradoxe. Sa démonstration oppose deux espaces de représentation. Ces deux espaces qui sont le salon et la scène. Le salon, c'est l'endroit où l'on cause, où chacun peut lancer un bon mot, raconter une bonne histoire. Une anecdote ne se répète pas. S'il faut la répéter, ben, elle devient froide, elle est refroidie d'ailleurs, plus personne ne rit. Au contraire, l'espace de la scène est fondamentalement un espace où la même histoire peut être répétée indéfiniment. Plus l'acteur la joue, plus il gagne en expérience et améliore sa performance. D'ailleurs, les histoires ne sont pas du tout racontées de la même manière du salon et sur la scène. Sur scène, tout est agrandi, exagéré, pour produire l'effet dramatique voulu. Au salon, l'agrandissement théâtral serait même d'un ridicule absolu. À ce point de la démonstration, Diderot renverse la perspective. Le problème est que cet agrandissement théâtral ne marche plus. On ne veut plus de cette grandiloquence au théâtre. Elle est passée de mode. Le théâtre contemporain exige qu'on se rapproche au plus près de la nature avec le moins d'agrandissement. Bref, qu'on joue sur la scène comme si l'on était au salon. Un jeu, comme on dit, naturel. Ainsi Diderot, sous la forme d'un dialogue, deux interlocuteurs, le premier étant le porte-voix de Diderot. Il conclut que le meilleur acteur est celui qui joue sur ses techniques et sa réflexion. Il étudie son personnage, il lit à son sujet, il se l'imagine, il s'en forge en fin de compte un modèle idéal. L'acteur, on le dit à cette époque, joue de sang-froid. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, sang-froid, sang, on l'écrivait S-E-N-S et non pas S-A-N-G. C'est-à-dire avec raison. Au lieu de chercher à atteindre le sentiment juste, qui peut probablement émouvoir à la première représentation, mais qui ne peut durer sur le long terme et qui risque même de lasser, voire d'épuiser l'acteur. Ce que disait Diderot, plus on sent, moins on fait sentir. Alors, quelques années plus tard, Musset complétera la réflexion de Diderot après un échec cuisant que Musset a vécu en 1830 de sa pièce « La nuit vénitienne ». Seulement deux représentations au théâtre de l'Odéon. Donc on voit que ça n'avait pas marché. Alors, Musset renonce à la scène, mais n'en garde pas moins le goût du théâtre en choisissant de publier ses plus fabuleuses et reconnues pièces « À quoi rêvent les jeunes filles ?»« Lorenzaccio »« Les caprices de Marianne »« Fantasio »« On ne badine pas avec l'amour » de les publier et de les regrouper en volume dans un recueil sous le titre « Un spectacle dans un fauteuil ». Sa pensée à Musset, elle lui est vraiment propre. Il suggère que le théâtre peut se passer d'une salle, oui, peut-être d'une salle, mais pas d'un public, fût-il réduit à un seul individu. Ainsi, l'auteur joue avec les attentes du lecteur et les invite à imaginer un spectacle en lisant. Le recueil Café Musset est d'ailleurs ouvert par un avis qu'il fait au lecteur. Voilà ce qu'il dit au lecteur. « Figure-toi, lecteur, que ton mauvais génie t'a fait prendre ce soir un billet à l'opéra. Te voilà devenu parterre ou galerie, et tu ne sais pas trop ce que l'on chantera. Mon livre, ami lecteur, t'offre une chance égale. Il te coûte à peu près ce que coûte une stalle. Ouvre-le sans colère et lis-le d'un bon œil. »
Alors, que sont devenus et comment ont évolué ces interrogations et pensées du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et du XIXe, siècle du romantisme?
Le spectacle dans un fauteuil n'appartient pas qu'à Musset. À côté de la scène, à défaut d'un théâtre, a pris forme au fil du temps une nouvelle perception de la littérature, des pratiques de lecture, de l'interprétation des textes d'aujourd'hui, laissant ainsi le lecteur imaginer son propre spectacle, comme un pacte des lectures établi entre l'auteur et son lecteur, où il appartient à l'auteur, de par son écriture, de créer une étroite proximité d'esprit du lecteur, au point que ce dernier deviendra associé aux scènes décrites.
Alors, venons-en à Philippe Delerme, qui, à partir des années 1980, cultive cette nouvelle écriture. Son œuvre se fonde sur un nouvel art de vivre et d'écrire, et montre comment le pouvoir des mots laisse une mince frontière entre le réel et la fiction. Il cultive, depuis ses débuts en littérature, le génie de l'observation de ces petites choses qui font le prix d'une vie. Il en fait un jeu. Tout le monde sait identifier le style de Lerme. Il y a une méthode de Lerme, comme il y a une méthode assimile ou une méthode couée. Partir du quotidien, choisir un fait imperceptible, le considérer longuement et livrer spontanément l'impression poétique qu'il suggère, qu'il a su nous faire boire notre première gorgée de bière. Et ces mots nous ont rafraîchis, désaltérés et offert l'un de ces petits plaisirs minuscules, mais finalement essentiels.
Oui, André, Philippe Delerme, c'est bien là sa force d'écriture. C'est un traqueur de goût et de sens. Et je vais, par deux textes que j'ai choisis, vous en faire la preuve, je dirais, vivante. Cette première gorgée de bière, qu'il a écrite avec d'autres petites, je dirais, scénettes, il les a appelées « petits plaisirs aussi minuscules ». Alors, on va lire cette première gorgée de bière. « C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière peut-être retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée, gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce n'est ni trop, ni trop peu qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mes contenants et contenus peuvent s'interroger, se répondre en abîme. Rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche, éclaboussée de soleil, la chimiste déçue ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. Donc c'est vrai que dans ce petit texte, on voit tout, je dirais, tout ce que cette première gorgée, quand on la sent, peut donner comme bonheur, comme plaisir, comme sens et comme goût.
Ah oui, tout à fait.
Un deuxième texte aussi qui fait voir ces plaisirs minuscules, c'est-à-dire que Philippe Delerme s'arrête sur des petits détails de la vie qui nous paraissent très anodins, mais lui, il les contemple. C'est ce qu'on appelle l'écriture positive. Deuxième petit passage que j'ai pris dans toujours ce recueil, la première gorgée de bière, c'est lire sur la plage. Alors là aussi, je trouve ça assez drôle quand ça arrive, et ça nous est tous arrivé un jour. Alors, lire sur la plage. Pas si facile de lire sur la plage. Allongé sur le dos, c'est presque impossible. Le soleil éblouit, il faut tenir à bout de bras le livre au-dessus du visage. C'est bon quelques minutes. Et puis on se retourne. Sur le côté, appuyé sur un coude, la main posée contre la tempe, l'autre main tenant le livre ouvert et tournant les pages, c'est assez inconfortable aussi. Alors on finit sur le ventre, les deux bras repliés devant soi. Au ras du sol, il y a toujours un peu de vent. Les petits cristaux micacés s'insinuent dans la reliure. Sur le papier grisâtre et léger des livres de poche, les grains de sable s'amassent, perdent leur éclat, se font oublier. C'est juste un poids supplémentaire qu'on disperse négligemment au bout de quelques pages. Mais sur le papier lourd, grenu et blanc, des éditions d'origine, le sable s'insinue. Il se diffuse sur les aspérités crémeuses et brille çà et là. C'est une ponctuation supplémentaire, un autre espace ouvert. Le sujet du livre compte aussi. On tire de belles satisfactions à jouer sur le contraste, lire un passage du journal de Léoto où il vilipende précisément les corps amassés sur les plages de Bretagne, lire à l'ombre des jeunes filles en fleurs et renouer avec un monde balnéaire de canotiers, d'ombrelles et de saluts distillés à l'ancienne, plonger sous le soleil dans le malheur pluvieux d'Oliver Twist, chevaucher à la D'Artagnan dans l'immobilité pesante de juillet. Mais travailler dans la couleur est bon aussi. Étirer à l'infini le décor de Leclésio dans son propre désert, et dans les pages, alors le sable dispersé prend des secrets de Touareg, des ombres lentes et bleues. À lire trop longtemps, les bras étalés devant soi, le menton s'enfonce, la bouche boit la plage, alors on se redresse, bras croisés contre la poitrine, une seule main glissée à intervalles pour tourner les pages et les marquer. C'est une position adolescente. Pourquoi ? Elle tire la lecture vers une ampleur, un rien mélancolique. Toutes ces positions successives, ces essais, ces lassitudes, ces voluptés irrégulières, c'est la lecture sur la plage. On a la sensation de lire avec le corps.
C'est vrai que ce sont des sensations qu'on a tous vécues pour ceux qui lisent sur la plage. Alors, venons-en au lien entre Philippe Delerme et Charles Dickens. Le 5 septembre 2025, Philippe Delerme a publié « Le suicide exacté » de Charles Dickens. Il s'est intéressé aux 10 dernières années du papa d'Oliver Twist, David Copperfield, ou encore de Pickwick, et non pas sous l'angle de son œuvre, mais à travers sa fièvre de reconnaissance publique. Et on se demande pourquoi, aux abords de la cinquantaine, Charles Dickens a été saisi par une révélation, l'amour du théâtre.
Déjà, le titre, « Le suicide exalté » de Charles Dickens, donc de Philippe Delerme, publié en 2025, ouvrage récent, ce n'est pas un ouvrage universitaire, ni une biographie exhaustive. Il fallait déjà oser ce titre, qui sonne comme une provocation. Dans ce court essai, Delerme suit la trace d'un Dickens double. Dickens, d'ailleurs, peu connu dans le monde francophone. Autant dans le monde anglophone, il est connu, mais chez nous, très peu. Alors, de ce Dickens double, on voit deux côtés. D'un côté, le romancier prodige de l'Angleterre victorienne, fin observateur de Londres et des travers humains, créateur du grotesque et du pathétique, et puis, de l'autre côté, cet homme avide d'applaudissements qui transforme ses textes en spectacle et s'enivre du pouvoir de la scène jusqu'à l'épuisement. Un pan de sa vie, de ses 10 dernières années, c'est cette deuxième passion qu'est le théâtre. Une période qui est complètement méconnue par beaucoup de lecteurs de Dickens, de la vie qu'il a menée. C'est ainsi qu'il a passé les 10 dernières années de sa vie à une espèce de long suicide. Pourquoi long suicide ? Parce qu'il faisait des spectacles à partir de lectures publiques de ses œuvres, mais il se donnait à fond dans ses spectacles. Comme, quelque part, la fameuse phrase de Barbara, il avait envie de dire « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Le dire, bien sûr, à son public.
Oui, alors qu'il n'a plus rien à prouver. Et c'est déjà un grand écrivain. Et comment expliquer alors ce besoin viscéral d'être vu, applaudi, aimé, reconnu ? Et d'où tenait-il cette certitude de séduire et de tenir en haleine de la même manière, en suscitant le rire ou en faisant frissonner de peur ?
Bien, comme vous direz une littéraire, l'ivresse du livre. Cet amour pour le théâtre n'est pas autre chose que la fièvre qui l'a poussé à écrire tant de romans. Les plus connus, Dombey et fils, David Copperfield, Pickwick, son premier roman, écrit à 24 ans, Oliver Twist, bien sûr les contes de Noël. Mais c'est surtout à 50 ans qu'il a compris qu'effectivement, que l'amour du théâtre qui était en lui était la fièvre de l'écriture de ses romans. Il disait « Ce n'est pas moi qui pense, c'est mon personnage ». D'ailleurs, il disait « Quand j'écris, j'entends dans ma tête parler les personnages ». Tout petit, Dickens rêvait de devenir acteur. Un besoin d'être applaudi, d'avoir un rapport presque physique avec le public, sûrement dû à une absence de tendresse parentale. Il faut savoir, les parents de Charles étaient d'une espèce assez particulière. Ils aimaient les fêtes, les dîners, les spectacles, dépensaient beaucoup d'argent, qu'ils n'avaient pas d'ailleurs. Et bien sûr, ils furent très rapidement couverts de dettes avec enfants en bas âge. Qui étaient ces enfants, deux, Charles et puis sa sœur Fanny, traités de manière différente. Fanny, sa sœur, présentait beaucoup de dons musicaux. Et donc, elle fut admise à l'Académie royale de musique de Hanover Square. Ils ne trouvaient, en revanche, les parents de Charles, pas mieux que d'infliger à Charles, dès l'âge de 12 ans, un travail abrutissant dans une fabrique de cirage. Il faut dire que la maman de Charles était très belle et très froide, et son père aimait le mettre sur des tréteaux parce qu'il était déjà un petit peu acteur, mais s'en occupait pas. Donc Dickens n'a pas été aimé par ses parents. Il en a terriblement souffert. Et Dickens n'a pas su non plus se faire aimer de sa femme ni de ses enfants, disant préférer ses personnages de romans, à ses 10 enfants. Raison qui fait que tous ces personnages inventés par Dickens sont beaucoup plus forts que la vraie vie et que les pages écrites et inventées deviennent une autre façon d'être aimé. D'être aimé, oui, mais sur scène. Cela aurait pu être une petite vanité d'auteur comblée par le succès, mais c'est avant tout le début d'un mystère. Il a, Charles, une présence incommensurable de remplir les salles. Il est aimé d'un public populaire, puisqu'il a connu le Londres populaire, le Londres sombre, le Londres peu agréable. Mais comme il faisait beaucoup rire, la grande bourgeoisie a commencé à s'intéresser et est venue l'écouter. Car Dickens, il faut le savoir, est très sympathique, généreux, fantaisiste, beaucoup d'humour. On rit beaucoup en écoutant ses lectures. Pickwick, si vous l'avez lu, est un livre à mourir de rire. C'est un livre d'ailleurs qu'on a dit très alcoolisé. Hein, très alcoolisé pourquoi ? Parce que Pickwick et ses amis, pendant tout ce livre, ce roman, ils boivent du punch, des grogs, du gin à l'eau, de la bière tiède. Voilà, ils passent son temps dans les tavernes londoniennes, que d'ailleurs Charles Dickens a beaucoup connu. Il aimait bien lever le coude, hein, Charles Dickens aussi. Donc, ce parallèle, c'est ainsi qu'on fait un parallèle avec cet humour qu'a Dickens, mais un humour qui a beaucoup de profondeur parce qu'il fait vivre dans ses pages tous les visages de la nature humaine avec un goût marqué pour les déshérités, les oubliés, les victimes du vice et de la corruption. C'est le grand paradoxe de Dickens, un petit peu comme à la Molière. Hein, on pourrait presque faire un rapprochement avec Molière, parce que Dickens a toujours ridiculisé les juges, les avocats, les hommes politiques, mais aussi les pasteurs, les bedeaux, les professeurs, les journalistes, enfin tous ceux qui exercent leur pouvoir, petits ou grands, en abusant d'un rapport de force et en s'enfermant dans une tour d'ivoire de sévérité. C'est ce qu'aimait Dickens et c'est son paradoxe. Alors, on n'a pas de documents à ce jour, et on n'en aura jamais, afin de s'imaginer ces lectures. Quelle voix avait pu avoir Dickens? Quelle voix a dû être la sienne pour porter aussi loin, aussi fort, la solitude d'Oliver Twist, dont il se rapproche au niveau de sa vie d'enfant, ou de David Copperfield, et les indignations de Pickwick, qu'il a vécu un peu plus à l'âge adulte? Tout ce que l'on sait, c'est que pour vivre complètement son rôle, Dickens devait se reposer toute la journée. Il prenait de la drogue, il était assez shooté au laudanum entre autres, il était cardiaque, donc il passait ses journées allongé dans un lit, dans des chambres d'hôtel, et puis le soir, il se donnait à fond sur les planches. Alors j'ai envie de vous faire partager deux textes que j'ai aussi choisis, où on s'imagine le pouvoir qu'avait Dickens de faire passer à travers ses personnages ces deux traits de caractère, la misère de Londres et puis son bonheur d'être sur scène, son bonheur de faire rire, son bonheur de partager la joie qu'il avait de monter sur les planches.
Un extrait de David Copperfield.
De David Copperfield, oui, voilà, qui retrace un petit peu avec humour, parce qu'il avait gardé cet humour, humour presque propre, je dirais, aux londoniens, cet humour anglais, de faire partager cette misère qu'il a vécue en tant qu'enfant. Donc, c'est un passage de David Copperfield qui se trouve dans le tome 1. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre avec ce passage que je vous lis. « Serais-je le héros de ma propre histoire ou quelque autre y prendrait-il cette place ? C'est ce que ces pages vont apprendre au lecteur. Pour commencer par le commencement, je dirais donc que je suis né un vendredi à minuit. Du moins, on me l'a dit et je le crois. Et chose digne de remarque, l'horloge commença à sonner et moi je commençais à crier au même instant. Vu le jour et l'heure de ma naissance, la garde de ma mère et quelques commères du voisinage qui me portaient le plus vif intérêt, et longtemps avant que nous puissions faire mutuellement connaissance, déclarèrent que j'étais destiné à être malheureux dans cette vie, que j'aurais le privilège de voir des fantômes et des esprits tout enfant de l'un ou de l'autre sexe, assez malheureux pour naître un vendredi soir vers minuit, posséder invariablement, disait-elle, ce double don. Je ne m'occupe pas ici de leur première prédiction. La suite de cette histoire en prouvera la justesse ou la fausseté. Quant au second point, je me bornerai à remarquer que j'attends toujours, à moins que les revenants ne m'aient fait leur visite quand j'étais encore à la mamelle, mais ce n'est que je me plaigne de ce retard, bien au contraire. Et même si quelqu'un possède en ce moment cette portion de mon héritage, je l'autorise de tout mon cœur à la garder pour lui. Vous voyez, toujours ce côté miséreux, mais tourné avec beaucoup d'humour.
Alors, oui, un petit extrait maintenant des aventures de Pickwick.
Alors, Pickwick, voilà, on est complètement... Oui. Voilà, même s'il a écrit Pickwick assez jeune, puisqu'il avait 24 ans, on sent qu'il a une dérision qui n'existait pas dans David Copperfield. Alors Pickwick, pour vous resituer un petit peu le personnage, c'est un peu le Don Quichotte. Hein. C'est le personnage ridicule, naïf, plein de bonne volonté, qui voyage avec tous ses amis, qui va découvrir le monde. Voilà. Donc c'est plein là aussi d'aventures rocambolesques qui vivent et dont ils ont beaucoup de mal des fois à s'en sortir. Peut-être la raison qui en fait qu'ils boivent beaucoup dans des tavernes. Alors voilà Pickwick. Pickwick. Il est peu de moments dans la vie d'un homme où il connaît autant de risibles détresses, où il n'éveille aussi peu de charitable pitié que lorsqu'il court après son chapeau. Il faut une grande dose de sang-froid et un rare degré de jugement pour attraper un chapeau. L'on ne doit pas se montrer trop hâtif, sinon on l'écrase. L'on ne doit pas non plus tomber dans l'autre extrême, sinon on le perd pour du bon. Il vaut mieux adopter la même allure paisible que l'objet poursuivi. Faire preuve de ruse et de prudence et guetter le bon moment. On dépasse alors peu à peu le chapeau, puis on effectue un rapide plongeon, on le saisit par le bord et on se l'enfonce solidement sur la tête. Le tout en souriant sans cesse, plaisamment, comme si l'on semblait trouver la plaisanterie aussi bonne que n'importe qui. Voilà, ça c'est tout à fait l'humour anglais de Charles Dickens.
Oui, Charles Dickens, qui est mort à 58 ans, il a eu certes une fin de vie précoce, mais profondément heureuse.
Oui, heureuse dans l'écriture, parce qu'il pouvait justement prouver à lui-même ce qu'il était réellement, et a pu le dire et l'écrire. Et puis heureux, mais alors plus qu'heureux, d'être sur les planches. Au fond de lui, Charles Dickens a incarné l'écriture au point de la changer d'essence. La magie du livre, de la littérature, ne se limite pas à enfermer tous les tumultes de la vie, comme il disait dans un parallélépipède de silence. Il sera heureux sur les planches, trop heureux du fait de se sacrifier et de recevoir un amour qu'il ne recevait pas dans la vraie vie. Un bonheur insondable, mais débouchant sur un inéluctable épuisement. Il en mourra, comme vous l'avez dit, André, le 9 juin 1870. Un siècle auparavant, Diderot évoquait le paradoxe de l'acteur. Dickens vous interroge ainsi sur le paradoxe de l'écrivain, lui qui aura jusqu'à la dernière lecture fait de sa vie un véritable spectacle.
Merci Véronique pour ce parallèle très intéressant Diderot, Dickens, Delerme. Et nous avons appris des choses très intéressantes sur ces trois écrivains à des périodes diverses. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission avec un nouveau sujet littéraire.
Tout à fait, il est en préparation.
Ah, ça sera avec plaisir. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Un cœur aimant est la plus vraie des sagesses. Elle est de Charles Dickens. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.